93.
Jusqu'à 9h30, vous écoutez Bouchard en parle. Bouchard en parle. Avec Jean-Simon Buis.
8h30 au FM 93, toujours très gris dans le ciel de Québec. C'est pas une journée particulièrement réjouissante sur le plan de la météo. Côté trafic, Vez, est-ce qu'il y a quelque chose à noter présentement?
Non, ça se passe bien. On a, si on veut vraiment fouiller, là, on a un véhicule en panne sur Capitale, mais en direction est, un peu après la première avenue. Dans la voie de droite, ça cause pas vraiment de problème, mais soyez vigilants si vous êtes dans ce secteur. Sinon, ailleurs, ça va bien partout.
La circulation présentée par Paquet Nissan à Lévis. Vous voulez vous équiper pour l'été? Avec le tout nouveau Kicks à partir de 17 998 $, Paquet est le seul à en avoir un grand inventaire.
Un peu plus de 3 ans après le suicide d'une étudiante en médecine, l'Université Laval ne notera plus ses futurs médecins. La faculté de médecine a notamment pris cette décision dans le but de modérer l'esprit de compétition entre étudiants. Le Journal de Québec écrit que les traditionnels notes chiffrées et lettrées ne seront plus divulguées. C'est plutôt sous forme de projet pilote qu'on attribuera la mention succès ou la mention échec à un examen. Certaines universités québécoises appliquent déjà ce système de notation. L'élargissement de l'autoroute Henri IV coûtera finalement 200 millions de moins que prévu. La facture initialement évaluée à 450 millions a été réduite à 291 millions. La première pelletée inaugurale a été faite hier en présence de ministres fédéraux et provinciaux. Des mesures d'atténuation seront mises en place durant les travaux pour éviter d'importantes congestions. Les travaux doivent s'étirer jusqu'en 2023. Et finalement, un débat a réuni hier le ministre de la Santé Gaétan Barrette et les porte-paroles en santé des autres formations politiques québécoises. La joute a donné un aperçu des sujets qui risquent d'être abordés en campagne électorale, notamment le temps d'attente aux urgences. Tant le Parti québécois, la Coalition Avenir Québec et Québec solidaire se sont engagés à revoir l'entente sur la rémunération des médecins spécialistes.
Au tennis, Félix Auger-Aliassime s'est bien battu, mais a finalement dû s'incliner en 3 manches contre le Russe Daniil Medvedev au 2e tour de la Coupe Rogers. Défaite aussi pour Milos Raonic. Victoire cependant pour Denis Shapovalov. Et à Montréal, Françoise Abanda s'est inclinée contre la 3e favorite, Sloane Stephens. Et au baseball, défaite des Capitals 8-4 contre les Boulders à Rockland. Et en ski acrobatique, l'aînée des Sœurs du Four-la-Pointe, Maxime a annoncé hier qu'elle mettait un terme à sa carrière.
C'est vraiment gris ce matin, là, alternance soleil-nuage, oui, pour la journée, mais actuellement, je pense que la pluie s'en vient tranquillement. Toutefois, elle était à 40 % de probabilité d'averse. Mais bon, il y a un risque d'orage aussi pour cet après-midi. Le maximum est à 26. Avec l'humidex, on va ressentir quelque chose de collant, de chaud, jusqu'à 34. Mais le retour du soleil est prévu pour demain, vendredi, et ce, jusqu'à mardi prochain. Actuellement, il fait 21 à Québec.
La météo, présentée par Kia Québec, Kia Sainte-Foy et Kia Val-Bélair, et leur événement Passez chercher votre chèque de vacances. 2000 ou 4000 $ comptant le jour même selon le modèle choisi. Et on rachète votre bail. Mais ça se termine le 31 août. Chez Kia Québec, Sainte-Foy et Val-Bélair, ouvert le samedi.
C'est Bouchard en parle.
8h33, c'est jeudi, donc on poursuit notre tournée des partis méconnus en vue des élections provinciales de cet automne. Parce que oui, évidemment, tout le monde parle du Parti libéral, de la CAQ, du PQ, de Québec solidaire, mais il y a une panoplie d'autres partis dont on a fait un peu la nomenclature dans les dernières semaines. Et on poursuit ce matin avec le NPD Québec. Vous connaissez le NPD, le parti qui a vécu une vague orange littéralement en 2011, puis qui a balayé au fédéral une bonne partie du Québec. Depuis ce temps-là, ben ça baissait un peu l'engouement pour le NPD, mais entre-temps, il y a une branche provinciale qui est née, et pour en parler, on rejoint le chef du NPD Québec, Raphaël Fortin. Bonjour, Monsieur Fortin.
Bon matin, Monsieur Buis.
D'abord, pour nous replacer un peu dans le contexte, un parti qui est assez récent, le NPD Québec.
Le nom est enregistré en 2014, mais c'est juste en avril 2017 que le premier exécutif a été élu. Donc, je dirais que le parti a environ un an et demi d'activité réelle. Il y a eu une course à la chefferie qui a été partie en septembre 2017 et j'ai gagné la chefferie le 21 janvier dernier.
OK. Le but finalement, c'est de pas nécessairement copier, mais de se calquer un peu sur les autres provinces qui ont le NPD, c'est ça? C'est qu'on s'est dit qu'il y avait une valeur à avoir un nouveau Parti démocrate au Québec?
Effectivement. En fait, c'est pas de calquer les autres provinces, mais tout simplement, on trouvait qu'au Québec, il manquait un parti de gauche non souverainiste. Il y a plusieurs personnes qui, depuis quelques années, pensaient à dire qu'il manquait un parti. Et on a décidé de le fonder, de travailler pour ça depuis véritablement... Je dirais à fin 2016 que le travail a débuté pour faire une vraie assemblée générale en avril 2017. Puis c'est là qu'on peut dire que le parti a démarré.
Donc, vous, il n'y a pas de tergiversation. C'est un parti fédéraliste, un parti qui veut le Québec au sein du Canada, c'est ça?
Mais en fait, on n'est pas un fédéraliste asymétrique, c'est-à-dire que le fédéral respecte les compétences du Québec. Mais j'aime mieux dire de gauche non souverainiste parce que au sein de notre parti, oui, bien sûr, des gens très fédéralistes, Mais il y en a d'autres qui sont pas nécessairement fédéralistes, mais ils n'ont pas envie de tomber dans un débat sur la souveraineté du Québec, de partir en référendum. Je dirais que c'est beaucoup plus modéré, l'amour à l'attachement de la fédération. Cependant, ils veulent pas partir du Canada. Donc, c'est pour ça que j'aime mieux dire un parti de gauche non souverainiste.
Mais vous dites qu'il y avait de la nécessité pour ça. Est-ce que vous le sentez dans la population? Parce que j'ai l'impression que la gauche est très associée à Québec solidaire, notamment là, au Québec. Est-ce que vous pensez réellement qu'il y a cet appétit-là pour les électeurs, pour un parti qui ne se définit pas comme étant souverainiste à gauche?
Ben, dans les rencontres qu'on fait, oui. Je veux dire, la réalité de Québec solidaire a décidé de faire un virage très souverainiste quand ils ont décidé de se fusionner avec Option nationale. Ce qui fait que maintenant, il y avait juste parti de gauche souverainiste. Alors, pour quelqu'un qui est de gauche, il y avait deux choix. Soit il se pinçait le nez en disant « j'ai pas le goût de parler de souveraineté, mais je vais voter Québec solidaire », ou sinon, décidait « je vote libéral parce qu'on fédéraliste, mais je suis pas nécessairement d'accord avec la vision néolibérale du parti ». Donc, en fondant ce parti-là, on devient une opportunité pour ces gens-là, une option. Je faisais partie, il y en a encore beaucoup de gens qu'on considère des orphelins politiques, et je pense qu'on peut être une maison intéressante pour ces gens-là.
Ça prend quand même du guts là, de se lancer en politique en fondant un parti, en sachant qu'avec le système électoral qu'on a présentement, ça favorise pas les tiers partis. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer comme ça puis à prendre ce pari-là?
Les convictions. Je vous dirais, c'est certain que depuis qu'ils ont plus, ils ont changé le mode de financement des partis politiques suite à la commission Charbonneau. Ça a créé un certain cartel des partis parce que les partis avaient déjà de l'argent dans la caisse électorale et maintenant, pour avoir du financement, faut passer au travers d'une élection générale pour débuter. En 2014, les libéraux, à cause des résultats qu'ils ont obtenus, à peu près 40%, ils reçoivent annuellement 4 millions d'Élections Québec. Nous, on se finance seulement avec la possibilité des 100 $ par personne, par parti politique annuellement. Et en année électorale, c'est 200 $. Mais ça demeure qu'on n'est pas, faut être honnête, dans la même ligue au niveau du financement. Mais je pense qu'à moyen long terme, on a vraiment une place sur cet échiquier-là. Surtout que tous les partis ont signé une entente disant faut qu'il y ait une proportionnelle. À part le Parti libéral, évidemment. Mais s'il y a une proportionnelle, ça veut dire que tous les partis vont devoir travailler ensemble. Et là, ça favorise l'entrée pour voter pour des vraies convictions et non stratégiquement constamment. Ça va être pour moi, je suis de gauche, non souverainiste, il va y avoir telle option. Je suis de droite, je suis fédéraliste, il y a telle option. Je suis de droite souverainiste, il peut en avoir une option. Alors, ça va, c'est juste améliorer la démocratie d'avoir la proportionnelle.
Ouais, je pense qu'on est assez d'accord là-dessus. La problématique, c'est que lorsqu'un parti se retrouve au pouvoir de manière majoritaire, puis même s'il était tenté par la proportionnelle, il va faire, finalement, c'est bien le fun d'avoir les coups des franges. Est-ce que vous croyez vraiment qu'un parti dans le système qu'on est présentement pourrait proposer ça puis y aller de l'avant avec une proportionnelle?
Ils ont intérêt à le faire pour arrêter le cynisme de la population. Trudeau avait promis au fédéral en 2015, il a reculé. Et à mon avis, ça paraît pas très bien. Là, la coalition Avenir Québec est premier dans les sondages. On va voir si M. François Legault a une parole, s'il se retrouve au gouvernement. Moi, j'espère qu'il va la tenir, mais quelqu'un qui le ferait en ayant gagné une élection avec un système actuel et décide de faire la proportionnelle, à mon avis, gagnerait à le faire puisqu'il démontrerait qui est une personne honnête. Et j'aime pas entendre dire que les politiciens sont tous soit corrompus ou pas corrects, parce que dans la réalité, les politiciens sont le reflet de la population. Il y a du bon monde, puis il y a du mauvais monde, comme partout dans n'importe quelle entreprise. Ouais. Il y a des gens qui sont là pour leur bien personnel, puis il y en a qui sont là pour le bien de la communauté. Alors, même si je ne suis pas fervent des politiques de la CAQ ou encore des libéraux ou de QS, sinon j'aurais été dans ces partis-là, je reconnais que dans tous ces partis-là, il y a des gens, il y a des bonnes idées. Et c'est ça qu'il faut mettre de l'avant, que faut arrêter de toujours faire de la démagogie envers tous les partis, mais plutôt de travailler à se dire, il y a une bonne chose qui est faite dans ce parti-là, il y a une bonne chose dans la mienne, travailler ensemble pour arriver à un résultat pour la population. C'est ce que les gens s'attendent, que les politiciens travaillent ensemble pour arriver à un résultat final et à livrer la marchandise.
Côté nombre de candidats, ça va comment, votre recrutement? Est-ce que vous allez être capable d'en présenter dans la majorité des circonscriptions? Ou...
Faut être honnête, non. On vise plutôt une cinquantaine de candidats. Okay. Je veux dire, la réalité avec le financement, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est sûr que ça prend des gens d'une grande conviction pour faire une vraie campagne dans notre réalité économique. Mais je pense que en faisant des entrevues comme avec vous aujourd'hui, le monde qui découvre qu'on existe, ça va les attirer. Ah, j'ai goût d'aller les voir. D'ailleurs, notre site web, j'en profite, c'est le www.lenpdq.org. Si vous avez envie de nous écrire, devenir membre ou encore poser des questions, n'hésitez pas, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Et vous allez voir, il y a une panoplie de candidats avec des curriculums vitae super intéressants.
Vous avez l'air jeune, je m'excuse la question, mais le parti ressemble à quoi en termes de personnes, de générations qui sont représentées à l'intérieur?
J'ai l'air beaucoup plus jeune que je suis. En fait, j'ai bientôt 39 ans, même si souvent la plupart du monde pense que j'ai l'air d'avoir 28, 29 ans. Mais je vous dirais que il y a beaucoup de jeunes qui sont membres de notre parti, mais la plupart de mes candidats, c'est des gens, je vous dirais, entre 40 et 60 avec une grande expérience de vie. Juste à Québec, là, je suis fier. Aujourd'hui, on va investir d'autres candidats. Ben, Raymond Côté, qui est mon ancien adversaire à la course à chefferie, okay. Lui est déjà investi. Il va être candidat dans Jean Lesage, qui est l'ancien député fédéral. Ouais. D'ailleurs, dans la même circonscription fédérale. J'ai Mona Bello, qui est une femme autochtone, qui a une formation pluridisciplinaire à l'université, dont en études autochtones, en communication, entre autres. Et j'ai aussi une personne d'origine algérienne, M. Hamid Nadji, qui sera dans Jean Talon, qui, lui, a une formation de chimiste en environnement, qui actuellement est courtier en immobilier et aussi également dans Louis Hébert, parce que malheureusement j'ai eu une mauvaise nouvelle au niveau de la santé. Denis Blanchette ne pourra pas se présenter dans Louis Hébert, mais j'ai une candidate, Caroline Côté, qui est en train de faire compléter, si je ne m'abuse, son PhD, son doctorat en environnement, mais elle travaille déjà dans le milieu environnemental. Alors j'ai des gens avec des super beaux profils, puis je pense que les gens ont intérêt à vouloir s'informer davantage sur notre parti.
Vous parlez de la région de Québec, beaucoup de candidats. Vous savez que la région de Québec a tendance un peu plus à droite, ça a tendance à tendre un peu vers les partis de droite. Un peu comment vous voulez vendre la gauche à Québec?
En fait, je vais reconnaître une chose de très positive pour eux, les partis de droite. Ils ont su bien vendre leur politique. En fait, bien articuler leurs idées. Ce que la gauche, au fil des années, a mal réussi. Que ce soit ici ou au Canada ou aux États-Unis, même chose, on le voit, ils ont de la misère à exprimer leurs idées. Et je pense que la meilleure manière de vendre nos idées, ça va être de bien expliquer nos politiques et de voir que les gens ont intérêt à voter pour des partis politiques de gauche qui voient dans l'intérêt collectif. Quand on parle de baisser les impôts constamment, c'est très populiste parce que si on baisse les impôts, ça veut dire qu'il y a moins de revenus pour le gouvernement. Alors, il faut que les gens comprennent que quand tu baisses les impôts, c'est sûr que nécessairement les services donnés par un gouvernement vont diminuer. Parce qu'il faut arriver...
Pas un discours très populaire à Québec. Je vous le dis tout de suite, M. Fortin, là, vous prêchez un peu dans le désert en disant ça à Québec, là, de dire que baisser les impôts, c'est pas bon. Je comprends très bien votre argument, mais c'est ce que je veux dire. Quand vous parlez d'éléments comme ça, il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais la façon que les services sont donnés, c'est pas efficient. Il y a de l'argent qui se gaspille. »
Ça, je suis d'accord. Mais c'est pour ça qu'il faut exprimer comment on va arriver à améliorer avec l'argent puis comment les services doivent être donnés. Je donne un exemple. En santé, il y a énormément d'argent. L'affaire, c'est que la façon que ça a été géré, il y a énormément de gestionnaires et l'argent arrive en bas pour les services, elle est diminuée. Et tout ce qu'on fait, c'est toujours rajouter de l'argent au lieu de revoir la manière que la gestion au niveau de la santé est faite. Ça, c'est un autre débat, mais ce que j'explique, j'essaie pas de prêcher dans le désert. Les gens sont intelligents à Québec comme partout ailleurs. Oui, c'est vrai qu'ils veulent avoir pour l'argent qu'ils donnent des services attendus. Le problème, c'est là que l'erreur et le gouvernement, c'est qu'on demande de l'argent et on donne pas des services de qualité. Mais c'est pas la solution de baisser les impôts parce que les gens qui sont classe moyenne ou en plus fragilisés, quand il y a moins de services, c'est eux qui sont le plus affectés en premier. Et ça, c'est important que les gens le comprennent. Et il y a une loi mathématique, la CAQ, je trouve ça plate, parle de baisser le fardeau fiscal des gens, d'augmenter les services, d'équilibrer le budget. Ça prend pas un doctorat en mathématiques comprendre que ça marche pas, ça peut pas s'équilibrer de cette façon-là. Et ça, c'est faire du populisme. Et ça, à long terme, c'est beaucoup plus dommageable parce que les gens, après ça, vont dire « on croit plus nos politiciens ». Pour les croire, il faut être honnête avec les gens.
Sauf que ce que je crois de la perception de la gauche, notamment à Québec et ailleurs aussi, c'est que trop souvent, justement, on accuse les autres partis de faire du populisme, on essaie d'expliquer des choses, mais on n'est pas dans le quotidien totalement de certaines personnes. Là, bon, là, vous parlez des plus vulnérables, c'est évident. Là, mais les gens de la classe moyenne qui nous écoutent, qui paient énormément d'impôts, déjà. Vous n'avez pas l'impression que de faire dire que bah, si on baisse pas vos impôts, vous allez perdre des services. Pensez pas que c'est justement pas ça qu'ils veulent entendre, justement, puis peut-être que c'est pour ça que la gauche pogne pas chez une certaine clientèle, notamment dans la classe moyenne?
Ben moi, je m'excuse, mais on a chialé sur... On s'est plaint des libéraux les trois premières années où ils ont eu des énormes restrictions budgétaires. Mais ils ont fait ça dans le but d'équilibrer un budget sous le dos des gens, puis là, ils se retrouvent avec des milliards cette année, et là, il lance des propositions, il donne des cadeaux partout. Ça, pour moi, c'est pas une façon de fonctionner. Quand tu as une vision à long terme, tu dis voici où on s'en va, il y aura pas de surprise pour personne. Mais ce que vous me dites là, c'est une réalité. Je veux dire, oui, les gens s'imaginent que si on leur en donne plus dans leur poche, mais en bout de ligne, là, aller aux États-Unis. Ils payent beaucoup moins d'impôts gouvernementaux, mais l'impôt est privé. Parce que si on le retire du gouvernement, le service, il faut qu'il aille dans le privé. Dans le privé, ils ont une fonction, faire du profit. Un gouvernement, il est pas là pour faire du profit, il est là pour amener des services à sa population. Maintenant, c'est à nous de bien expliquer nos politiques. Je suis d'accord avec vous que, historiquement, dans Québec, ça a mal passé. Ils ont l'impression, mais faut pas oublier qu'une majorité de la population aussi, qui est employée du gouvernement à Québec, ils devraient comprendre qu'un gouvernement qui est bien nourris en termes de revenus, ils vont pouvoir avoir, maintenir des emplois aussi dans la région de Québec. Ça, ça fait partie aussi d'une réalité. C'est une capitale, Québec. C'est une région ultra importante au niveau du gouvernement du Québec. Et moi, pour moi, de dire qu'on baisse les impôts, puis en même temps, ben faut dire la vérité aux gens. Si on baisse constamment les impôts, on doit diminuer les services aussi. Ça vient avec.
J'aimerais faire un exercice avec vous, un petit peu comme si on était dans un débat électoral finalement. Mais là, évidemment, vous n'avez pas d'autres chefs autour de vous, là, mais passez des enjeux. Puis vous me disiez un petit peu qu'est-ce que le NPD Québec ferait pour ces grands enjeux, OK? En éducation.
Mais pour commencer. Premièrement, moi, je crois, vous êtes d'accord avec moi que les études professionnelles, c'est gratuit?
Oui.
Le cégep, c'est gratuit?
Oui.
Pourquoi à l'université, ça ne serait pas gratuit? Le Danemark le fait. Évidemment, c'est sûr que... c'est pas, on doit changer la façon qu'on choisit les étudiants à l'université à ce moment-là. Mais de toute façon, l'université est pas faite pour tout le monde. Faut être capable de valoriser aussi les métiers manuels.
Absolument.
Mais les universités au Danemark, c'est gratuit. Le PIB a augmenté automatiquement parce qu'à long terme, c'est payant. Des gens plus éduqués vont se retrouver à avoir des meilleurs revenus, vont avoir aussi des saines habitudes alimentaires. Donc en santé, on y gagne et en problèmes sociaux, ça diminue. L'université devrait être gratuite. Ça, c'est certain. Pour moi, ça, j'y crois entièrement. Et ça prend des géographes, des philosophes qui gagneront pas des salaires de 100, 150 000, alors que l'image de toujours, l'université, c'est les médecins et les avocats. Il y a des gens qui gagnent très bien leur vie aussi avec un DEP, un diplôme d'études professionnelles. Il faut valoriser ça. Fais pas dire, ah, t'es pas capable d'aller à l'université, ben, fais un DEP. Non. Valorise le métier. En Allemagne, ils font du mentorat. Dès le milieu du secondaire, les gens peuvent expérimenter, travailler dans des entreprises pour les gens qui croient qu'ils vont vouloir faire un travail manuel. Et ça allait aider. L'Allemagne a le meilleur PIB, d'ailleurs, de l'Europe. Je veux dire, il y a une façon de revoir. Mais ça, c'est pas un parti politique de décider cette fonction-là. Savez-vous pourquoi? Parce que je crois qu'il faut dépolitiser l'éducation. Il faut avoir des états généraux et savoir qu'est-ce qu'on veut comme système éducatif, au même titre qu'au primaire, au secondaire.
Donc, sonder la population sur ce qu'ils veulent comme système éducatif.
La population, mais surtout ceux qui sont les acteurs du milieu de l'éducation, que ce soit les professeurs, les étudiants. Généralement, là, c'est toujours un parti politique. J'ai cette idée, on est les meilleurs. C'est pas vrai que la CAQ, les libéraux, QS, ni même l'NPDQ a la réponse à ça. Ça doit être d'un commun accord. Pour la raison, pour que ça change, qu'à chaque élection, on ne dise pas « change tout, fais une réforme », parce que c'est les étudiants qui en font les frais à ce moment-là. Et c'est la population qui paye, puis on change constamment la direction. Il faut dépolitiser l'éducation parce que c'est trop important comme...
Vous parlez de ressources sur le terrain, vous positionnez comment pour les commissions scolaires? Vous disiez qu'il y a beaucoup d'argent qui se ramasse pour les gestionnaires, tout ça, justement. Est-ce que vous êtes pour ou contre le système de commissions scolaires actuel?
Je crois qu'en région, il y a certainement une étude à voir comment on pourrait s'y prendre parce que c'est vrai que exemple, la Commission scolaire de Montréal gère un budget de plus d'un milliard de dollars. Maintenant, dans la région, exemple de Montréal ou Québec, il y a assez de population. Est-ce que les écoles pourraient avoir plus d'indépendance? Oui, je le crois. Maintenant, je peux pas dire, j'ai pas fait d'études là-dessus, mais en région, il est nécessaire d'avoir des commissions scolaires parce que c'est pas vrai que chaque école aurait les moyens d'avoir un orthopédagogue, un travailleur social. Il n'y a pas assez de population pour amener ça. Donc, c'est important qu'une commission scolaire puisse redistribuer les richesses entre les différentes écoles. Maintenant, dans les grandes régions urbaines, c'est clair que chaque école, avec la quantité d'élèves qu'il y a, il pourra avoir plus d'indépendance décisionnelle au niveau financier. Ça, oui, je suis d'accord avec ça.
Vous dites que l'université devrait être gratuite. En fait, ce sera pas gratuit. Ça prend de l'argent pour la faire rouler pareil. Oui. On la prend où, cet argent-là, à ce moment-là?
Bien, je pense qu'il y a des choix politiques qui vont devoir se faire si on fait ça. Ça veut dire voir l'ensemble des revenus de l'État puis où on les met. Mais moi, savez-vous quoi? C'est toujours l'argumentaire de la droite de dire combien ça va coûter. Pourquoi on ne voit pas combien ça va rapporter? Si on fait un choix politique...
Non, ça va coûter avant de rapporter. Là.
Ça, je suis d'accord. Oui, non, mais... Oui, je suis d'accord. Est-ce qu'on m'entend toujours? Oui,
oui absolument. Oui.
Je suis d'accord avec ce que vous dites qu'il y a un coût à ça. Mais quand on regarde à long terme ce que ça peut rapporter, moi, pourquoi on met toujours l'éducation à dire combien ça va coûter alors que si on fait un choix de société de se dire c'est ça qu'on met de l'avant. Priorité numéro un, c'est notre avenir. Mais c'est pas de dire combien ça va coûter, mais combien ça va rapporter. Il y a une étude qui a déjà faite, et là-dessus, je vais donner raison à QS. On augmenterait juste d'un pour cent les impôts, pas des gens, mais des grandes entreprises, et on pourrait se payer l'éducation complètement. Mais ça, c'est un choix politique. Il faut le faire. Et il y a aussi des revenus dans l'État qui se perdent, qui ont... Je veux dire, il y a des subventions qui sont données. Exemple, on donne le plan vert. Il est prouvé que la plupart des centaines de millions qui sont dans ce plan vert-là, c'est pour financer des entreprises qui font pas des véritables...
On est d'accord là-dessus.
Alors, si on révise... Il y a du gaspillage d'argent... Ça pourrait faire certainement être remis dans d'autres endroits, mais il s'agit juste de faire des choix politiques. Aujourd'hui, je ne peux pas vous arriver avec le cadre financier, je ne suis pas assis avec les chiffres, oui. Mais je peux vous dire que il s'agit juste de prendre des décisions, de faire des choix politiques. Maintenant, si on décide, on a bien vu Trudeau qui parlait de déficit de 10 milliards, léger déficit de 10 milliards. Si ça passe pour des infrastructures, pourquoi ça ne serait pas pour investir dans nos jeunes puis l'avenir de notre province puis la réussite? Parce que si on a des gens scolarisés et on s'en va vers une économie du savoir de plus en plus, si on a des gens scolarisés, c'est on assure l'avenir de notre province. Si on décide qu'on regarde d'une façon comptable, l'école, faut que ça arrête pas, faut que ça... Toujours de cette façon-là, c'est sûr qu'on n'arrivera pas avec une vision long terme de réussite. On va y aller avec une vision court terme. Donc, électoraliste, à tous les quatre ans, de prouver que nous, on est capable de balancer un budget. Oui, c'est important de balancer un budget, mais c'est surtout de balancer notre population et de c'est-à-dire que nos jeunes y ont de quoi de réussite, un potentiel de réussite. Et c'est par l'école que ça se passe, la réussite. La valorisation de l'être humain passe aussi par ce que tu réussis à l'école et que tu es dans la bonne école. Parce que quelqu'un qui va à l'université, mais que c'est pas sa place ou qui va dans une technique puis c'est pas sa place, il va plutôt sentir un échec et ça, c'est pire. Il faut être capable qu'il sente que c'est valorisé aussi un DP. Les techniques, tous les différents types d'écoles. Moi, c'est comme ça que je vois ça, puis je pense que c'est comme ça que l'année
prochaine. Donc, replacer les ressources, puis essayer de valoriser tous les types d'études. En santé, vous l'avez effleuré un peu, là, mais concrètement, qu'est-ce que vous feriez pour réduire le temps d'attente aux urgences, puis améliorer l'accès aux services de santé?
Bien, je veux dire, la réalité, c'est qu'on va sortir bientôt la plateforme. On n'a pas les mêmes moyens que les autres parties. Il y a des gens qui ont travaillé depuis 3-4 ans sur des plateformes. Là, on est en train de travailler là-dessus, mais je peux vous dire que nous, ce qu'on valoriserait, et c'est vrai que l'argent a été trop mis dans les médecins, et je trouve ça un peu aberrant. Depuis plusieurs années, tout ce qu'on valorise, c'est les médecins. Les médecins diagnostiques nous donnent une réalité de notre santé, mais les personnes qui nous soignent, ce sont les infirmières, ce sont les préposés aux bénéficiaires, c'est eux. Moi, vous avez sûrement déjà été à l'hôpital, moi, j'ai déjà été hospitalisé. Celui qui prend soin de toi, c'est pas le médecin, il vient de diagnostiquer, mais les gens de première ligne sont épuisés. Il manque de personnel. C'est pas valorisé. Oui, c'est vrai que Dr. Barrette parle de vouloir engager des infirmières, mais dans le contexte actuel, personne veut se faire engager. Alors, c'est normal qu'il y ait un cercle vicieux. On a prouvé avec les années qu'on les traitait comme des employés de second service, alors que c'est eux qui donnent le premier service aux gens. Si on est capable de sortir aussi, avoir plus de soins à domicile, il y a des gens qui n'iront pas aux urgences, qui n'ont pas besoin. Si on fait de la prévention plutôt que de la réaction, on va sortir les gens des urgences. Il y a une réalité. Je suis pas magicien à dire ce que je dis, mais depuis des années, tout ce qu'on a comme ministre de la Santé, que ce soit que les libéraux ou le PQ, on place toujours des médecins. Ils ont une vision de médecin. Et c'est normal, je peux pas leur en vouloir. Pourquoi, dans tous les autres ministères, on n'a pas obligé d'un professeur comme ministre d'éducation, mais comme ça prend un médecin pour ministre de la Santé, ça prend surtout quelqu'un de cœur qui est capable d'être à l'écoute aussi. Un politicien, le problème, tous les partis politiques, généralement, essayent de vendre leur salade au lieu d'être à l'écoute de ce que les gens proposent. Je parle des intervenants dans chaque domaine. Moi, je ne suis pas un spécialiste dans rien. Ma job, techniquement, comme chef de parti politique, c'est de m'entourer de gens qui sont spécialistes dans ces domaines-là pour me conseiller. Et c'est ça qu'on oublie. Les politiciens n'ont pas des réponses à tout. Vous me posez des questions, je ne peux pas avoir réponse à tout parce que je ne suis pas spécialiste dans tous ces domaines-là.
Non, mais c'est pour les orientations.
Non, je suis d'accord, mais ce que j'essaie d'exprimer à la population, c'est que mon travail comme chef...
C'est de bâtir une équipe.
De bâtir une équipe et d'être à l'écoute de cette équipe-là. C'est ça le travail d'un politicien, être à l'écoute. Il faut pas oublier que le travail d'un député, c'est d'être représentant de ces gens. Et c'est pour ça que chez nous, NPDQ, moi, à part les grandes orientations qu'on s'est votées le 6 mai, le document qui est sur notre site web, puis la plateforme, les députés vont être libres de s'exprimer sur des enjeux qu'on ne sera pas, même si je suis pas en accord avec.
Pas de ligne de parti?
Là-dessus, non. Puis il y a une raison à ça. Je veux valoriser le travail des députés. Actuellement, les députés, ce sont des gens qui vont dire à leur population, voici ce qui est la bonne idée.
Des porte-parole de leur parti plutôt que des porte-parole de leurs citoyens.
Et oui. Moi, en 2015, quand j'étais candidat au NPD fédéral, je faisais du porte-à-porte. Puis ça arrivait que des gens me disaient, j'aime pas ça de votre plateforme. Je leur répondais, ben je suis d'accord avec vous. Là, ils étaient tout surpris. Au lieu d'essayer que je leur vende la plateforme, je disais, je suis d'accord. À ce point-là, je suis d'accord avec vous, je suis pas d'accord avec ça. Mais quand on regarde l'ensemble de la proposition du NPD fédéral, c'est celle qui me ressemble le plus. Je dis à la population, c'est impossible d'aimer 100% d'une plateforme d'un parti politique. La seule qui va aimer 100% de la plateforme, c'est le ou la chef. Parce que c'est lui qui va l'avoir le dernier mot pour dire oui. Alors, c'est normal qu'on soit pas toujours d'accord avec l'ensemble d'une plateforme politique. Faut regarder ce que l'ensemble nous promet. Pas prendre un enjeu et dire j'aime ce parti-là à cause de cet enjeu-là. Prendre l'ensemble. La réalité de ce qu'un parti propose comme position. Et c'est là qu'on est capable de se forger une opinion sur lequel des partis nous ressemblent le plus. Puis celui qui va nous défendre plus dans l'ensemble. Et c'est pour ça que je veux que mes candidats, futurs députés, aient une liberté d'expression. C'est sûr, je serai pas toujours en accord. Ça va être dur à défendre devant les médias qui vont penser qu'on a une dissension. Mais non, c'est valoriser le travail qu'il doit faire comme député. Et ça, c'est important, la ligne de parti. Le jour où ce que je vais faire élire des députés avec cette façon de faire-là, les autres partis politiques vont devoir suivre cette ligne-là. Et ça, pour moi, on va remettre le travail de député à l'avant-scène. Pas juste du chef, pas juste des ministres. Les députés ont une grosse job à faire. C'est la courroie de transmission entre les problèmes des électeurs avec l'appareil gouvernemental. Et leur travail, c'est de travailler auprès de ces gens-là. C'est pas de vendre un parti politique. C'est de vendre les problèmes qu'une ben, pas vendre, mais c'est-à-dire défendre une population, la circonscription qui veulent représenter. Et ça, ça veut dire, dans un caucus, le défendre coûte que coûte. Peu importe si des fois, ça crée des frictions. Et c'est en ça que je crois.
Monsieur Fortin, merci beaucoup d'être passé nous voir en studio.
C'est moi qui vous remercie de m'avoir reçu.
Puis je vais vous souhaiter une bonne campagne électorale.
Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de journée à vos auditeurs auditeur, également. Excusez-moi, j'avais lecteur en tête, auditeur.
Ça fait plaisir, M. Fortin. Au revoir. Donc, Raphaël Fortin est chef du NPD Québec, un parti qui peut-être représentera un candidat dans votre circonscription. 8h56.
Pour communiquer avec notre studio, texto 25226.
T'achètes pas de chaises brisées pour épargner, ni des habits beaucoup trop petits. Et tu veux pas d'un café frais de la veille, même s'ils vendent à moitié prix. T'engages pas un débutant comme dirigeant, un chat sauvage pour ton ménage. Et pour gâter tes bons clients, tu leur donnes pas juste des restants. Non, c'est pas sorcier, on a toujours pour notre argent. Sers-toi donc des cartouches HP.
Tu peux pas te tromper.
Utilisez les toners d'origine HP, fiables et écologiques à 100%.
Hey, salut, ici André de Pizza Royale.
Miam!
Qu'est-ce que c'est bon?
Noum!
Voilà, tout a été dit. Et pour vous remercier de nous faire confiance depuis 40 ans, à l'achat d'une bière, je vous offre gratuitement des croustilles chaudes avec notre sauce royale.
Pizza Royale!
Avant Duproprio, les gens payaient une grosse commission. Heureusement que les temps ont changé. Découvrez comment Duproprio peut vous aider à vendre votre maison sans commission lors d'une séance d'information gratuite le 14 août au Centre des congrès et d'expositions de Lévis dès 19h30. Détails sur duproprio.com.
Depuis 8 ans, Slogar a remis à 1694 clients la somme de 29 670 000 $ récupérés en invalidité, CNE, SST, SAAQ et autres. La succession de M. Mario Lemire de Mont-Royal a regagné 106 000 $ de la CNE SST, cause indemnité de décès. Visitez slogar.ca et constatez l'expertise de nos membres et la force de notre équipe à votre disposition. Chez Slogar, nous vous aidons à récupérer votre dû. La référence partout au Québec. Slogar.ca, sans frais pour l'étude préliminaire du dossier.
Hey, l'été, c'est pas reposant, hein?
Oh, mais ça!
Imaginez un endroit où vous auriez du temps pour lire le roman que vous avez jamais le temps de finir, écouter la télévision, faire la sieste.
Ça serait génial!
Ben, c'est possible chez Cineos Health.
Vous êtes âgé de 18 ans et plus? Ne prenez pas de médicaments? Faites comme des milliers de personnes et participez à une étude clinique chez Cineos Health. Recevez jusqu'à 3000 $ cet été. Inscrivez-vous à monétudecineossanté.com, monétudecineos.com. Contribuez avec nous à la médecine de demain.
Moi, j'ai toujours rêvé de voler. Mais bon, je sais bien que traverser la forêt à 50 km/h et survoler un canyon majestueux, les pieds dans le vide, à bord d'une installation pour toute la famille unique au Canada, ben, c'est impossible.
Le Air Canyon du Canyon Sainte-Anne.
Tout est possible.
CanyonSA.qc.ca.
Je suis avec Michel de Céramique L'Entrepôt.
Salut Sylvain.
Michel, la dernière fois qu'on s'est vu, tu me parlais du vinyle click à l'épreuve de l'eau. Ben, excuse-moi là, mais à quoi ça sert d'avoir un plancher à l'épreuve de l'eau?
Sylvain, à tous les jours au magasin, on voit arriver des gens qui ont eu des dégâts d'eau et qui doivent remplacer leur plancher de bois flottant. Avec le vinyle click, on le désinstalle, on le fait sécher et on le réinstalle. C'est parfait pour les logements ou encore pour les sous-sols.
OK, là, je comprends. Pour des planchers à l'épreuve de l'eau, allez voir Michel et son équipe chez Céramique L'Entrepôt 850 Pierre-Bertrand, face à l'entrepôt du hockey.
Vous voulez économiser sur votre équipement de hockey? Venez profiter des méga rabais chez EcoSport. Les patins CCM TAC 40-92 sont à seulement 139,99. Aussi, 2000 pantalons, épaulettes, jambières et coups d'usagers pour enfants à 9,99. EcoSport, Québec et Lévis.
Je vais te chatouiller. Chatouille, chatouille.
Ok,
Operators s'occupe du stress pour que vous profitiez du reste. Combinez vos assurances, économisez et passez du temps avec ceux qui comptent vraiment. Co-operators, la plus humaine des assurances.
Croyez-moi, la force, ça se mesure pas juste en muscles. Celle de l'équipe de Pocket Nissan Lévis, c'est dans le crayon. Ils pèsent vraiment fort pour vous donner 1 500 $ minimum pour votre véhicule de change. 1 500 $. Moi, c'est Jean-François Caron, champion canadien des hommes forts, top 5 au World Strongest Man et fier porte-parole de Pocket Nissan.
C'est la grande liquidation et Pocket est prêt à tout pour vous satisfaire. Louez le Qashqai pour 55 $ par semaine ou obtenez 2 500 $ de rabais au financement.
Pocket Nissan Lévis, une Pocket et rien d'autre.
Hey, c'est Mathieu, entrepreneur en construction, fier membre de l'Association de la construction du Québec. Ce matin, je vais suivre une formation accréditée et reconnue de l'ACQ, mon association. Comme moi, t'es entrepreneur en construction, visite le acq.org.
Gagne ton auto.
J'ai gagné mon auto!
Gagne ton auto avec le FM 93. Achetez ou louez un véhicule neuf ou d'occasion et vous pourriez le gagner jusqu'à concurrence de 50 000 $. Testez le mot auto au 25226 et visitez les concessionnaires participants.
Honda Charlebourg, Kia Montmagny et Desjardins Ford Sainte-Foy.
Textez auto au 25226. Gagne ton auto avec le FM 93.
Chez Barbies en terrasse, vous bronzez et nous grillons. Savourez de délicieuses grillades sur notre terrasse au 330 rue Bouvier, Le Bourgneuf. Avec ceux qu'on aime au barbiesgrill.com.
FM 93.
CGMF 93.3 Québec.
Le FM 93, c'est de l'actualité, c'est de l'opinion, c'est du sport, c'est des collaborateurs de tous les milieux.
Une radio Cogeco Média.
FM 93.
Audace, crédibilité, Québec.
Jusqu'à 9h30, vous écoutez Bouchard en parle.
Bouchard en parle.
Avec Jean-Simon Buis.
Il est 9h02 au FM 93. Bon matin à tous. C'est pas aujourd'hui qu'on va se faire dorer à Couen. Il fait gris pas mal. Les nuages sont présents. Il y a encore des risques d'orage. Vous savez, au mois d'août, hein, il va continuer à faire chaud, mais il y a plus d'orage. Donc, c'est ce qu'il va falloir s'habituer un peu à cette petite tendance-là, les coups de tonnerre aux alentours de 5h30. Ça va faire partie de notre quotidien. Dans le trafic, Vez, est-ce que c'est terminé?
Ouais, ben, en fait, ça n'a jamais commencé. Ou à peu près jamais. Non, ça va bien partout. Je vous rappelle, pour les habitués des traversiers, ce soir, il y a des grands feux l'Auto-Québec. Donc, il n'y aura pas de service de traversier entre 21h15 et 22h40.
La circulation présentée par Pocket Nissan à Lévis. On vous équipe pour l'été en vous offrant un minimum de 1 500 $ pour votre véhicule d'échange. Vous ne verrez pas ça ailleurs, seulement chez Pocket à Lévis.
L'élargissement de l'autoroute Henri IV coûtera finalement 200 millions de moins que prévu. La facture initialement évaluée à 450 millions a été réduite à 291 millions. La première pelletée de terre inaugurale a été faite hier en présence de ministres fédéraux et provinciaux. Des mesures d'atténuation seront mises en place durant les travaux pour éviter d'importantes congestions. Les travaux doivent s'étirer jusqu'en 2023. Un peu plus de 3 ans après le suicide d'une étudiante en médecine, l'Université Laval ne notera plus ses futurs médecins. La faculté de médecine a notamment pris cette décision dans le but de modérer l'esprit de compétition entre étudiants. Le Journal de Québec écrit que les traditionnelles notes chiffrées et lettrées n'existeront plus. C'est plutôt sous forme de projet pilote que la mention succès ou la mention échec sera notée à l'examen. Certaines universités québécoises appliquent déjà ce système de notation. Et finalement, les funérailles nationales de Paul Gérin-Lajoie auront lieu à 11h aujourd'hui à la cathédrale Marie-Reine du Monde à Montréal. Les Québécois ont eu l'occasion de faire leurs adieux à cet ancien ministre de la Jeunesse et de l'Éducation hier alors que son corps était exposé en chapelle ardente.
Au tennis, rappelons les défaites de Félix Auger-Aliassime et de Milos Raonic à Toronto, la défaite de Françoise Abanda à Montréal à la Coupe Rogers. Denis Shapovalov, lui, a atteint la troisième ronde du côté de Toronto. L'action reprend évidemment aujourd'hui jusqu'à dimanche. Et au golf, c'est le début aujourd'hui du championnat de la PGA. C'est le dernier tournoi majeur de la saison. Et au hockey, il y a une vingtaine de joueurs de la Ligue nationale qui seront présents ce soir pour la 10e édition du Pro-Am Gagné-Bergeron au Centre Vidéotron.
C'est nuageux, c'est gris à Québec actuellement. On dit seulement 40% de probabilité d'averse, mais si on s'en sauve, on est vraiment chanceux. Il y a un risque d'orage aussi prévu pour cet après-midi. Le maximum est à 26 degrés avec l'humidex, ça pourrait monter jusqu'à 34. C'est chaud, c'est collant. Mais retour du soleil à partir de demain et ça jusqu'à mardi prochain. Actuellement, il fait 21 à Québec.
La météo présentée par Kia Québec, Kia Sainte-Foy et Kia Val-Bélair et leur événement Passez chercher votre chèque de vacances. 2000 ou 4000 $ comptant le jour même selon le modèle choisi. Et on rachète votre bail. Mais ça se termine le 31 août. Chez Kia Québec Sainte-Foy et Val-Bélair, ouvert le samedi.
FM 93. 9h05. Avez-vous remarqué parfois sur les médias sociaux que les photos de vos amis ne ressemblent pas tout à fait à leur face? Moi, c'est quelque chose qui me frappe assez fréquemment quand je glisse mon pouce sur Facebook, puis je remarque que les peaux sont trop lisses un petit peu pour être naturelles, les yeux sont trop grands, les sourires sont trop blancs. Je sais pas si vous avez remarqué, là, mais c'est de plus en plus fréquent. Puis il y a même des téléphones maintenant, vous vérifierez vos modèles, mais qui appliquent des filtres photographiques automatiquement quand tu prends une photo. Tu n'as même plus le choix.
Mais voyons.
Oui, oui, oui.
Tu décides pas.
Oui, il y a les téléphones Huawei, là, la marque chinoise qui prend plus de place un peu.
Ah,
là.
OK, ça. OK, là, je comprends. Okay.
Non, mais c'est un bon téléphone. C'est pas un mauvais téléphone.
Non, je sais, mais d'où ça provient, je comprends. Puis c'est une marque quelconque. Mettons, c'est pas dans nos iPhones ou Samsung.
Non, je pense pas que c'est tous les téléphones, mais ça pourrait que ça s'en vienne. Tu prends la photo, puis déjà, t'as l'espèce d'yeux de quasiment de Mickey Mouse, puis l'espèce de peau de bébé parfaite, puis ça te replace la face, puis c'est. Je trouve ça bizarre.
Tellement d'hypocrisie photographique, là, je veux dire, ça. Pas de bon sens. Moi, je l'ai pas remarqué chez mes amis, mais souvent quand moi j'ai une passion de stockage là, t'sais, on parle de quelqu'un, on va aller stocker puis tout ça.
Aller voir sur leur profil qu'est-ce qu'ils font dans leur vie, puis c'est quoi de neuf puis
un peu waireuse. Mm-hmm. Puis sur Instagram par exemple, je vais là, puis là mon dieu, tu dis ah, cette personne est vraiment belle ou quoi que ce soit. Tu en vas sur Facebook puis tu peux être déçu. Puis ça arrive souvent dans les sites de rencontres.
Tu peux être moins beau sur Facebook que sur Instagram.
Ben c'est parce que tu appliques plus de filtres sur Instagram. Ça ouais. Vient avec.
C'est tellement malsain, cette espèce de tendance-là. Tu n'as pas t'assumer que, ben, dans ce que tu es.
Oui, parce que c'est sûr que tu vas finir par rencontrer les gens en vrai, ben, normalement. Là,
ouais, en général, quand.
C'est comme un peu mentir, là.
Ben, c'est parce que tu peux décevoir la personne dans ta face. Si tu avais trois mentons puis que finalement, tu en as caché deux. Là,
c'est ta fausse représentation.
Ouais, non, mais c'est ça, c'est exactement ça. C'est qu'à un moment donné, non, il va falloir que tu assumes.
Ça peut être un jeu. Tu peux t'amuser avec ta propre face.
Oui,
ben oui. La déformer puis c'est vrai qu'il y a des affaires, mais. T'essaies de faire passer ça pour la réalité, ça marche plus.
Parce qu'il y a des filtres où ça t'enlaidit vraiment énormément. Puis des filtres, ben, tu te trouves plus beau, plus belle.
En tout cas, il y a un mode amusement, c'est ça. Tu peux t'amuser avec ton ami. Hein, on se met des oreilles de lapin. Bon, c'est une affaire. Mais s'améliorer la face pour avoir une meilleure image sur les réseaux sociaux, déjà, je trouve qu'il y a un léger problème dans ton estime personnelle puis ta vision de toi-même. Là.
Ouais, mais en même temps, écoute, si tu ne leurres personne, OK. Si c'est seulement pour toi, ta plateforme, puis tu te trouves plus belle, puis...
Ben, du moment que tu le mets sur les réseaux sociaux, tu leurres des gens. Tu fais à quoi quand tu
ressembles à ça? Non, je comprends, mais pour moi, un vrai leurre, c'est, mettons, je veux rencontrer un gars, je modifie mon visage, hey, viens me rencontrer, nanana, on va aller à un café, puis finalement, j'arrive, puis...
Ah! Qu'est-ce que c'est? Ça? Comme à chaque matin quand je te vois, là,
c'est vraiment... Il me trouve pas, finalement, il me trouve pas.
Tellement, il fait comme, qu'est-ce que c'est ça?
Hey, tu m'as posé un lapin, non, j'étais là, je t'envoyais en même, t'as évité...
Mais ça dénote quand même qu'on est obsédé par notre apparence. Puis, tu sais, ne serait-ce que tu sais, les gens qui prennent un selfie dans une occasion particulière, tu sais, c'est pas très long, prendre une photo généralement. Sauf que par la suite, il faut que tu penses à tous les filtres qu'ils vont mettre. Fait que des fois, là, la personne est avec toi, elle prend son selfie, elle fait sa petite face d'abord, elle aime pas son selfie, fait qu'elle le recommence, puis elle le recommence, puis elle le recommence. Puis 4, 5, 6, 7 fois jusqu'à ce qu'elle ait la photo parfaite avec son beau profil, mesdames, parce que les dames disent tout le temps qu'ils ont un beau profil.
Non, mais ça me dérange pas.
Ouais. Mais puis ça prend un certain temps. Après ça, t'as toute la modification, l'éclairage. Fait que finalement, quand tu regardes la personne par là, tu fais comme, ouais, c'est comme une version ultra idéalisée d'elle, ouais. Si elle était retouchée 100% du temps, 24 heures sur 24. Il y a une tendance encore plus inquiétante que ça. Puis ça, j'ai fait le saut, ça m'a dressé les poils sur les bras. Les gens sont tellement habitués d'avoir cette image-là dans leur selfie. On s'entend, là, quand je dis les gens, c'est pas tout le monde, là. C'est une tendance assez marginale, mais il y a des gens qui font ça. Ils sont tellement habitués de se voir d'une certaine manière sur leur filtre Instagram puis sur leur photo Snapchat qu'ils s'en vont voir des chirurgiens plastiques puis qu'ils leur demandent à ressembler à leur photo, à leur propre photo.
Ouais.
T'étais une autre étape, là.
Déformé. Ou déformé. Pimpé.
Ouais, c'est ça. Ben. Autrement dit, ils voient leur apparence idéalisée avec des filtres Snapchat ou bien Instagram. Puis là, ils s'en vont voir le chirurgien plastique puis ils demandent, « Hey, moi, adresse-moi le nez exactement comme sur mon selfie. Arrange-toi que j'ai la même face exactement. Hey, t'es rendu à un niveau maladif puis pas à peu près. »
Mais, tu sais, mettons, là, je comprends que c'est parce que tu t'as modifié tes photos souvent puis là, tu t'es habitué à ce look-là puis tu te trouves encore plus beau ou plus belle avec ce look-là. Sauf que n'importe qui s'en va voir le chirurgien plastique doit amener ce qu'il souhaite, comme au coiffeur. Moi, si je suis comme brune, châtaine, blonde, ben si je veux devenir rousse, je vais apporter une photo pour dire C'est ça que je veux comme couleur. En même temps, je trouve ça, c'est sûr que c'est
très malsain.
C'est très 2018 poussé, même 2024 là. Je trouve que
non, j'espère qu'on
peu...
va être amélioré en 2024.
Oui, sauf que je suis pas tant surprise. Si elle se trouve belle la personne comme ça, puis elle trouve que la modification lui fait bien, puis elle pensait déjà à la chirurgie esthétique, puis elle s'en va le voir, ben que ce soit une photo d'elle modifiée ou une photo d'une actrice qui tripe sur son nez.
Tu vois, dans l'article de Vice, qui est, sur lequel je me base pour parler de ça, le magazine indique que c'est considéré comme un trouble obsessionnel compulsif et que les chirurgiens plastiques, les gens qui se font solliciter pour des chirurgies comme ça, systématiquement ou à peu près, vont refuser de le faire.
Ah ouais?
Oui, parce que justement, ils vont dire que c'est pas éclairé comme décision, c'est pas utile. Puis pour un, tu sais, je veux dire,
pourtant,
il y a un dilemme moral un peu quand même. Non, mais t'apportes une photo.
C'est quoi la différence, mettons, entre une photo de toi qui est modifiée et une photo d'une actrice que tu veux donc bien son nez?
Déjà, j'ai un problème un petit peu avec la chirurgie plastique en général. Sauf dans
là,
des cas où c'est nécessaire.
Mais là, il faut débattre sur ce sujet-là. Fait que, c'est quoi la différence?
Mais aller se faire modifier la face pour ressembler à soi-même avec un fil, je trouve ça drôlement bizarre. Je trouve que c'est un niveau supérieur.
Tu trouves ça moins bizarre, la photo d'une actrice?
C'est parce que tout le monde a déjà eu l'espèce de fantasme de ressembler à quelqu'un de célèbre. C'est quelque chose qui existe. Okay? Puis c'est pas nouveau. Tout le monde a tout le temps voulu être quelqu'un d'autre. Mais être soi-même en étant.
Il y a une autre affaire qui existe aussi. Combien de chirurgiens qui peuvent te dire « Hey, ils sont arrivés avec une photo, ils voulaient donc ce nez-là, mais ça lui faisait donc mal, finalement, après l'opération, ce nez-là. » Il y a des chirurgiens, des gens qui lèvent la main en disant « Ça n'a pas de bon sens,
je comprends que c'est ta décision.
Parce que ça ne te faisait pas bien, mais au moins, tu l'as testé sur toi-même avant. »
Mais tu vois, il y a un nom pour ça, ils appellent ça la dysmorphie Snapchat. Donc, c'est les gens qui...
On est rendu
avec un terme médical, un terme diagnostique, la dysmorphie Snapchat. La personne se trouve laide dans la vraie vie, belle sur Snapchat, fait qu'elle s'en va se faire changer la face avec sa photo puis le fil qu'elle a mis dessus.
Moi, ça me choque plus le fait de se modifier le visage puis de faire un leurre, là, de rencontrer des gens avec le visage modifié que d'arriver chez le chirurgien plastique avec une photo de soi modifiée en disant « Moi, je veux ça ». Ça me choque plus de se modifier l'identité physique que d'aller chez un chirurgien avec une identité changée, mais pour dire « moi, je veux ça ».
OK. Non, je comprends ce que tu veux dire un peu. Mais ceci étant dit, la majorité des chirurgiens qui ont été sondés dans le cadre de cette étude-là mentionnent qu'ils ont reçu des patients qui voulaient améliorer leur apparence par rapport à leur selfie. Ouais. 55% des chirurgiens.
C'est vrai, par contre, que quand tu t'en vas pour une chirurgie esthétique, là, je me suis fait dire qu'il faut réellement que tu aies prouvé que mentalement, ce soit pas juste un choix esthétique, que tu sois mal dans ta peau et tout ça. Bon, il y en a d'autres qui sont des...
Mais ça fait narcissique. Ça fait tellement nécessité d'être parfait à tes propres yeux.
Mais il y a un trouble mental, je pense, en l'air de ça.
Si on parlait de compétition à l'école tantôt, c'est de la compétition aussi.
C'est ça, qui naît d'ailleurs, mais c'est un peu ça.
Tu vas être plus cute que toi-même, tu vas être plus cute que les autres aussi pour avoir plus de clics, pour avoir plus de sous, parce que ça rapporte sur Snapchat, ça a l'air.
Ouais. Ça rapporte, aussi, mais surtout sur Instagram. Il y a des gens qui se font payer là, 10 000 $ pour une publication.
Ou Instagram, là,
Je pense Kylie Jenner, je pense que c'est elle qui rapporte le plus sur Instagram. Il y avait noté que je pense qu'une publication de Kylie Jenner sur Instagram, c'est évalué à 1 000 000 $.
Ouais. Mais mettons des Québécoises, surtout parce que ce sont elles qui sont... Il y a plus d'influenceuses que d'influenceurs. Je connais quelqu'un, à une personne interposée, 10 000 $ pour une photo de crème.
C'est pas
qu'elle n'utilise pas dans la vie.
Non, mais elle a prôné
le produit. Puis elle a décidé de le faire.
Un nouveau visage, pas faire de mauvais jeu de mots, un nouveau visage de la publicité, c'est les médias sociaux. Mais ce ne sera pas demain la veille que je vais me passer le bistouri dans la face pour ressembler à mes selfies.